السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer la bataille de Fath Makkah, il y avait une question concernant le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Safiya bint Uyay. Safiya, comme on a dit, est devenue la mère des croyants parce qu'elle s'est convertie à l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle. Mais normalement, une femme qui perd son mari parce que son mari a été tué pendant la bataille doit attendre combien de... avant de se marier? 4 mois et 10 jours avant de se marier avec quelqu'un d'autre, d'accord? Mais normalement, le prophète ne doit pas se marier avec sa fille 4 mois et 10 jours. Mais sa fille, elle faisait partie de Sabi. Et les savants disent que Sabi, c'est-à-dire que le fait qu'elle soit captive de guerre, ils ont un statut particulier. Et ce statut particulier, parce que l'Idda, elle a plusieurs objectifs. L'Idda, la viduité, la période de viduité, elle a plusieurs objectifs. Mais parmi les objectifs, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas un enfant qui est en conception. Ça, c'est parmi les objectifs principaux. On s'assure qu'il n'y a pas d'enfant en conception. Ben, pour les savants, pour Sabi, pour les captifs de guerre, la seule condition, c'est on s'assure qu'il n'y a pas d'enfant en conception. Donc combien de donc haïda, ouais. Donc si la femme a eu ses règles et que après quand elle a ses règles, c'est-à-dire elle n'est pas enceinte. Donc on est certain qu'elle n'est pas enceinte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assuré qu'elle n'était pas enceinte. Et ça c'est tout le monde. C'est comme ça. On ne peut pas s'approcher d'une femme si on ne s'assure pas qu'elle n'est pas enceinte d'un autre homme. C'est le minimum. On ne peut pas. Sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'un de vous n'arrose pas la plante de quelqu'un d'autre. Donc l'objectif, hein, c'est que si un enfant est en conception, hein, il est interdit pour un homme de s'approcher à une femme qui a un enfant d'un autre homme. C'est haram. Hein. Elle est déjà enceinte de. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assuré que sa fille, elle n'avait pas d'enfant en conception. Et il s'est marié avec elle. Il l'a libérée d'abord. Elle est devenue musulmane, il s'est marié avec elle. Donc il a appliqué l'istibra' faqat. Il n'a pas appliqué la règle pour la musulmane, c'est 4 mois et 10 jours. Il a appliqué la règle de l'istibra'. Et les savants, ils disent tous pareil. Pour les captifs de guerre, c'est cette règle qu'il faut appliquer. Ça, c'est pour la question que tu m'as posée la dernière. Avion deuxième, on va faire après, Inch'Allah. Maintenant, Ghazwatu Fathu Makkah. C'est une grande, grande bataille. C'est une grande étape dans la vie de l'islam. Les plus grandes étapes, c'est Al-Hijra. Regardez, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez des étapes qu'il faut garder en tête. Al-Bi'tha. Avant le Bi'tha, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un événement très important. Depuis la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'âge de 25 ans. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 25 ans? Mariage avec Khadija radiallahu anha. Très bien. À 35 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? 35 ans. Hein? Non, 40 ans la révélation. 35 ans. 35 ans, la Kaaba est tombée à cause d'un déluge. Et les musulmans et les Mekwa ont reconstruit la Kaaba. Et quand ils ont failli faire la guerre à cause de celui qui prend la pierre noire pour la mettre à sa place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, il s'est montré d'une grande sagesse, une grande intelligence. Il a réconcilié entre les gens en demandant à chaque tribu de prendre. Il a mis par terre un grand tapis, hein, rida, et il a demandé à chaque tribu de prendre un coin. Et comme ça, lui, par la suite, il a pris avec sa main pour le mettre à sa place. Et comme ça, toutes les tribus ont contribué à mettre Al-Hajar al-Aswad à sa place. D'accord? Donc ça, c'est à 35 ans. Regardez bien ça. À 40 ans, qu'est-ce qui se passe dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La révélation. Iqra bismi rabbik. L'ange Gabriel qui vient. La grotte de Hira. Jabal al-Nur. La montagne de la lumière. Donc, la révélation. À 40 ans, la révélation. C'est des dates que vous devez retenir. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. Très bien. À 40 ans, il devient prophète. À 43 ans, il se passe quelque chose. Donc depuis de 40 ans à 43 ans, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à tout le monde « Je suis prophète » Non. Il a commencé par les gens de sa famille, les gens proches. À 43 ans, Allah lui dit maintenant « Tu dois déclarer » la da'wa à tout le monde. Wasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Isda', c'est-à-dire donne, annonce l'islam. À 43 ans, l'islam est annoncé à toute la Mecque. 43 ans, très bien. À 50 ans, il se passe quelque chose de très important dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'année il y a plusieurs choses qui se sont passées à 15 ans. La tristesse, la famille. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il perd
sa femme
et son oncle. Sa femme, Khadija, c'était son soutien moral, elle était musulmane avec lui. Son oncle, c'était son soutien avec, ils avaient de l'extérieur, ils le protégeaient. La même année, il perd les deux. Regardez, cette année 50 ans, elle est cruciale. Qu'est-ce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il fait après? Non, avant l'Isra. Il décide de partir
à
Taïf. Il change de ville. Il dit peut-être à Taïf vont m'accepter. Vont accepter l'islam. Il change de ville, une ville qui se situe à 80 km de la Mecque. Il va les voir pour les appeler à l'islam. Et comment ils l'ont reçu? Par les pierres, par les crachats, par... Il est rentré dans la ville, il en est sorti directement. Les pieds ensanglantés, sallallahu alayhi wa sallam. Les crachats, ils ne l'ont pas laissé rester ne serait-ce qu'une journée, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il revient. Allah, donc regardez, la tristesse de perdre sa femme et son oncle. Maintenant, il décide de partir. La tristesse d'être refusé, d'être refoulé aussi. Il revient. Et là, Allah veut l'honorer. Allah veut. Ah, il lui a donné le voyage.
Isra
ul Mi'raj. Le voyage nocturne et l'ascension vers le ciel. Le prophète sallam part de la Mecque jusqu'à Jérusalem sur El Buraq. D'accord ? Une monture. C'est plus grande qu'un âne, plus petite qu'un cheval, avec des ailes. On l'appelle El Buraq. C'est une monture spéciale qu'Allah descend du ciel pour les prophètes, pour se déplacer. D'accord ? On dit même que Ibrahim, alayhi salam, quand il a laissé sa femme et son enfant à la Mecque, il habitait à Palestine, Jérusalem. Donc qu'est-ce qu'il faisait ? Comment il venait les voir ? Al-Buraq. Allah lui met à disposition cette monture spéciale pour venir les voir. Wallahu a'lam. C'est pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce voyage et après, vers le ciel, c'est une autre, par un autre moyen. Allahu a'lam, le moyen pour remonter dans le ciel, c'est pas le boulard, c'est autre chose. Très bien, l'Isra ou le Mi'raj, et pendant l'Isra ou le Mi'raj, c'est quoi? La prière, l'obligation de la prière. Donc la prière est devenue obligatoire à 50 ans, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 50 ans. Très bien. Là, on retrace un peu. 53 ans, qu'est-ce qu'il a? L'Hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà constitué une société musulmane à Médine, a déjà pris engagement avec les Médinois. Il demande à tous ses compagnons de partir et lui, à 53 ans, il part. L'Hijra. Et l'Hijra, d'après les savants, c'est l'événement le plus important. D'accord? L'Hijra, 53 ans. Très bien. À 55 ans. Azwad Badr. L'événement le plus important, c'est la bataille de Badr. 2 ans après l'arrivée à Médine, la bataille de Furqan, le discernement. La plus grande bataille. 314 contre 1000 soldats. 314 musulmans contre 1000 soldats mécois. 314 musulmans peu armés, 2 chevaux, 70 chameaux. Et vous avez de l'autre côté 1000 soldats qui étaient armés, qui avaient tous des chevaux, tous des chameaux. Et Allah a donné la victoire aux musulmans cette fois-ci. Il y avait 14 musulmans tués pendant cette bataille et plus de 70 mécois tués. Et en plus, c'est les grosses têtes, c'est les personnalités de la Mecque qui ont été tués pendant cette bataille. Et 70 captifs de guerre. Et ils se sont dispersés. Un an après, qu'est-ce qui se passe? Uhud, la bataille de Uhud. La vengeance des Mécois. Cette fois-ci, ils sont venus à 3000. Et les musulmans étaient 1000. Et au début, les musulmans ont gagné cette bataille. Sauf que certains ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette bataille a été perdue. Et c'était un échec. Et c'était une leçon pour les musulmans. Ils ont retenu la leçon. La leçon, c'est ne jamais désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenir le guide, le chef. On doit obéir aux ordres du chef sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était une leçon pour les musulmans très claire. Ils n'ont pas refait cette même erreur. Donc, la troisième année, c'est la bataille de Uhud, qui est une grande bataille. Maintenant, on arrive entre la quatrième et la cinquième année. Il arrive quelque chose de très important. On va dire la cinquième année. Très important. Al-Ahzab. C'est quoi l'Ahzab? C'est les coalisés. C'est toutes les tribus animées par la tribu de Khaybar la tribu juive de Khaybar qui est venue aller chercher des soldats, chercher des Mekwa, attiser la haine pour dire on doit exterminer les musulmans définitivement. Ils sont venus à combien? 10 000 soldats. 10 000. Les Mekwa, les Ratafan, les Salim, les juifs de Khaybar sont tous venus pour tuer les musulmans, exterminer les musulmans. Et donc c'est là où le prophète a eu l'idée, grâce à Salman, de creuser la tranchée pour protéger Médine. Et ça a fonctionné, alhamdoulilah. Ils sont restés un mois à Médine, assiégés pendant un mois. 3000 musulmans, 3000 soldats musulmans à l'intérieur, pas plus. 10 000 soldats à l'extérieur. Ils sont venus pour exterminer les musulmans. Mais alhamdoulilah, Allah les a fait, Allah les a dispersés par la suite. Et quand ils se sont dispersés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose de très important. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, nous les attaquons et ils ne nous attaqueront plus. Et c'était vrai. Alors on va voir l'histoire. Donc, la sixième année, on l'a vu ensemble, qu'est-ce qui s'est passé la sixième année? Un an après. Houdaïbiya. C'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de faire la Umrah, comme tous les Arabes. Il part à la Mecque avec les habits de l'Umrah, avec les bêtes pour sacrifier. Est-ce que la Mecque a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la Umrah? Non, ils l'ont repoussé. Ils l'ont repoussé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de ça pour conclure un pacte. Et ce pacte, qu'est-ce qu'il dit? On l'a vu ensemble, qu'entre les musulmans et les Mécois, il y a 10 ans de trêve. Pas de guerre entre les musulmans et les Mécois pendant 10 ans. Les Mécois circulent comme ils veulent, les Médinois et les musulmans circulent comme ils veulent. Et donc ça, c'était la chose la plus importante pour les musulmans, c'est qu'il y a la paix, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de cette paix pour envoyer les musulmans partout. Et subhanallah, les musulmans étaient 3000, 4000 maximum. Un an après, ils sont, on va le voir quand on parle de Fath Makkah, ils sont venus pour la Mecque à 10 000 soldats. Vous imaginez le nombre. Les savants, ils disent que le nombre de musulmans pendant cette période de trêve qui était prévu pour 10 ans et qui n'a duré que 2 ans. D'accord.
Ce que fait le Tel Houdaïbiya, c'est que chaque tribu était libre ou bien de rejoindre la Rasoul Salosim ou bien de rester là. Voilà. C'est le plus important.
Exactement. Parce que c'est ça qui va être la cause de la guerre de Mecque. Donc, la trêve, c'était pour les musulmans qui ne comprenaient pas les finalités, qui n'avaient pas la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une injuste. C'était injuste. Comment on accepte ça? Comment on accepte l'humiliation? Comment on accepte? Mais quand ils ont vu par la suite les conséquences, ils ont compris. Et quand Allah a révélé Sourate al-Fath, sur le chemin du retour, Allah a révélé Sourate al-Fath. Sourate al-Fath, c'est une grande sourate qui parle de Fath. C'est pas Fath Makkah. Il parle de Sulh al-Hudaybiyah. Et pour Allah, pour le Coran, subhanallah, il dit que cette trêve, c'était un fath. C'est quoi un fath? C'est une conquête. C'est une victoire. Le fath, c'est la grande victoire. D'accord? Et donc ça, c'est une victoire. Et c'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des émissaires à tout le monde. Et le nombre de musulmans a été multiplié par X. Maintenant, la septième année, qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Khaybar.
Allah en fait. Ah, tu n'étais pas avec nous, mais tu suis de loin. Hein? Donc Khaybar, la septième année, Khaybar. On a vu Khaybar ensemble. On n'a pas rentré dans les détails, mais on a vu qu'Allah a donné la victoire aux musulmans. Pourquoi Khaybar? Pourquoi? On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissait pas passer les... Il sait que Khaybar, c'est cette tribu-là qui était à l'origine de tous les problèmes que les musulmans vivaient à l'époque, et surtout l'Ahzab, les coalisés, les gens qui sont venus de partout pour tuer les musulmans.
C'était le centre de décision.
Exactement. C'était un centre de complotisme contre les musulmans. Oui, c'était ça. Et donc, Khaybar. Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la plus grande victoire et surtout la plus grande richesse que les musulmans ont obtenue, c'est à partir de Khaybar. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم مغانم كثيرة الله دي كثيرة. Donc Khaybar c'était là, même les Mécois qui étaient pauvres et qui partageaient avec leurs frères médinois la terre, quand il y a eu Khaybar, ils ont dit à leurs frères médinois, c'est bon, vous pouvez garder nous, c'est bon. Ils sont, beaucoup parmi eux sont installés à Khaybar, grande ville, et qui y avait beaucoup de palmiers, beaucoup de richesses.
Mais là, chérie, pardon. Là, il y a une anecdote où les femmes du prophète sont pas révoltées et ont demandé beaucoup plus de.
Exactement. Sur l'Ahzab, elle parle de cette. خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الآخرة. Donc, les femmes du prophète صلى الله عليه وسلم. Quand il y a eu la richesse, le prophète n'a rien gardé pour lui. Le prophète, hein, si vous voyez comment il vivait, il pouvait devenir l'homme le plus riche. Mais quand il recevait son droit, le khums, dans les butins, le prophète avait toujours le cinquième. Mais il l'avait, mais il ne l'a jamais gardé. Le cinquième, là, il le donnait toujours aux pauvres de Médine. Quand il voit quelqu'un, un jour, il était en train de faire la prière, il s'est précipité de faire la prière. Et quand on lui dit, ah, Rasulallah, qu'est-ce qui se passe? Quand il a dit salam alaykum, il rentre directement chez lui, il dit à Aïcha, il y avait deux dinars. J'arrivais pas à me concentrer pendant la prière, alors que j'ai encore deux dinars chez moi. Allez, donne cet argent aux gens. Aux pauvres de Médine. Deux dinars, il n'arrivait pas à le supporter. Sallallahu alayhi wa sallam.
Cher, le khums, c'était pas pour lui.
Pas pour lui. Il le partageait. Lillahi wa rasoulihi.
Lillahi wa rasoulihi wa sakim wa fuqara. Il y a cinq catégories.
Il le partageait, c'est ça, c'est exactement ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui, il pouvait en faire ce qu'il voulait, mais son choix, c'était de le partager. Sallallahu alayhi wa sallam.
C'est dit dans le Coran. Le partage, c'était pas uniquement pour lui, parce que là, je m'excuse.
Oui, allez, je n'ai pas de souci.
Là, je crois qu'il y a une différence entre le fait ou le ranima.
Le ranima, mais fa Allahu ala rasouli.
Ranima, il a le cinquième
pour
les cinq catégories. Le fait, non.
Le fait, c'est pour lui. C'est pour lui, ça va. Quand il n'y a pas de guerre, quand il y a une guerre. Ça, c'est les deux cas différents. Ouais. Très bien. Donc, la septième année, donc, il y avait la bataille de Khaybar. Une grande bataille. Après cette bataille-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à Médine. Et là, la huitième année, qu'est-ce qu'il y a? Fathu Makkah. Là, on est. Là, on a retracé la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Fathu Makkah. Comment ça s'est passé? Dans la trêve entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Mécois, il y avait un point très important. Vous avez, chaque tribu a la possibilité de rejoindre soit les musulmans, soit les Mécois. Et quand on les rejoint, on devient solidaire. D'accord? Vous avez Banu Bakr, c'est une tribu qui avait des problèmes et des vengeances et des guerres anciennes avec Khouza'a. Khouza'a, c'est une qabila, c'est une tribu. Et Banu Bakr, c'est une tribu. Banu Bakr, après la trêve, ils ont choisi de s'allier à Quraysh. Khouza'a ont choisi de s'allier au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que parmi eux, il y avait beaucoup de musulmans. Les Banu Bakr, ils ont choisi de s'allier à Quraysh. Très bien, il n'y a pas de souci. Donc, puisqu'on a choisi de s'allier, la guerre entre ces deux tribus est interdite, n'est-ce pas? Par la règle, par la trêve. Et Quraysh ne doit surtout pas aider Banu Bakr contre Khouza'a. Sinon, c'est parce que Khouza'a, c'est les alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khouza'a n'était pas très loin de la Mecque. Et donc, Banu Bakr ont profité d'une occasion, une année après la trêve, deux ans après la trêve. Ils ont parlé entre eux, ils ont discuté, ils se sont rappelés des morts, des anciens qui ont été tués par Khouza'a, et ça remonte, hein, ils ont remonté l'histoire. Ils ont dit, mais là on a la possibilité, on va les attaquer le soir. D'accord ? On va les attaquer le soir et on demande l'aide de Quraysh, mais puisqu'on les attaque le soir, Quraysh n'est pas concerné. Alors Quraysh leur a donné les armes, les a aidés par des hommes, et ils se sont attaqués au Banu Bakr. Comme je vous ai dit, Banu Bakr, parmi eux, à Khouza'a. Banu Bakr se sont attaqués à Khouza'a. Khouza'a, il y avait beaucoup de musulmans parmi les Khouza'a. Et donc, ils en ont tué une dizaine. D'accord ? Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ? خرج نوفل ابن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان. C'était pendant le mois de Sha'ban, la 8e année. فأغاروا على خزاعة. Donc ils ont attaqué de nuit خزاعة. Donc فأصابوا منهم رجالا. Ils ont tué beaucoup d'hommes. وتناوشوا واقتتلوا. D'accord. Comme je vous ai dit, Quraysh a soutenu. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pardonné, c'est que Quraysh intervient directement dans la guerre par les aides. D'accord. Et c'était parce que c'était le soir. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر يا نوفل إن قد دخلنا الحرم. Attention, il y a Nawfal, c'est le chef de Bakr, Banu Bakr. Banu Bakr, c'est ceux qui ont attaqué. Leur chef, les gens lui ont dit, on est à Al-Haram là, on est bientôt à Al-Haram. Ilahaka ilahak, attention, ton Dieu, dans le sens, c'est un Haram, tu ne dois pas attaquer les gens à Haram. Faqala kalimatan azima, la ilaha al-yawma, ya Bani Bakr. Il n'y a pas de Dieu aujourd'hui. Il n'y a pas de Dieu aujourd'hui. Asibutarakum. Allez, votre vengeance, tuez-les même à côté de l'haram. D'accord ? Fala amri innakum la tasriquna fi l'haram, afala tusibuna ta'arakum fi. Donc, allez-y, faites ce que vous voulez. Ils ont continué à faire. Et quand Khouza'a, des hommes de Khouza'a sont venus jusqu'à la Mecque, je vous ai dit, Khouza'a n'était pas très très loin de la Mecque. Et là, Ja'ou, il a dari Boudayl ibn Warqa al-Khouza'i. Un homme de Khouza'a qui habitait la Mecque, ils sont partis chez lui. Et Amr ibn Salim al-Khouza'i, c'était un poète, il sort de chez lui pour arriver jusqu'à Médine, pour arriver à Médine quelques jours. Et il va dire un poème. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce temps-là, il était à la mosquée en train, après une prière. Donc il arrive, et il dit ce poème-là. Et ce poème a touché tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rabbi, inni nashidun muhammada. Ya Rabbi, inni nashidun muhammada. Oh Allah, je fais appel à Muhammad. Hilfana wa hilfa abihi al-aslada. Notre pacte et le pacte de son père. قد كنتم ولدا وكنا والدا. Il rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam le lien de parenté. ثمت اسلمنا ولم ننزع يدا. C'est à ce moment-là qu'on est devenu musulman et qu'on n'a jamais refusé ce pacte-là. D'accord. فانصر هداك الله نصرا ايدا. Donc انصر, c'est-à-dire viens nous soutenir, donne-nous le soutien. وادعوا عباد الله يأتوا مددا. Il appelle عباد الله, les serviteurs d'Allah, pour venir مددا. المدد, c'est le soutien. Les gens, quand vous avez une armée qui fait une guerre et après elle reçoit le renfort, المدد, c'est le renfort. المدد فيهم رسول الله قد تجرد. Parmi eux, رسول الله قد تجرد. Donc il met les habits de la guerre. أبيض مثل البدر يسمو صعودا. إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا. Donc il vient dans une armée quel فيلق. الفيلق c'est une grande brigade. On dit الفيلق si vous avez une brigade de plus de 400 personnes. Ça s'appelle فيلق. يجري مزبدا. C'est comme البحر, comme la mer qui vient avec l'écume. إن قريش أخلفوك الموعد. قريش a trahi son pacte. إن قريش أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد. Ils ont trahi le pacte que vous avez scellé ensemble. وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا ألست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيوتنا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. Donc ils se sont attaqués à nous, ils nous ont tués alors qu'on était en train de faire la prière. Ruk'an wa sujjada. Wa qattaluna, ils nous ont tués pendant la prière. Nous étions en train de faire la prière. Ruk'an wa sujjada. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a entendu ce poème-là, c'est quelque chose, ce poème, on l'a jusqu'à aujourd'hui, mais ça a déclenché chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez les musulmans, une colère. Il dit Nusirt ya Amr ibn Salim, Nusirt. Tu as mon soutien, ya Amr. Tu as mon soutien, ya Amr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, il regarde le ciel, il voit un nuage arriver. Il dit Inna hadhihi as-sahaba la tastahillu bi nasri bani Ka'b. Ce nuage-là que je vois me donne la promesse ou la bonne nouvelle que la victoire sera de notre côté et il sera soutenu. Faqala. Donc, Boudayl bin Waraqa al-Khuza'i, c'est un homme qui habite à Mecque, mais il est de Khuza'a. Il vient jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez une première personne qui vient, le poème là, le poète, et après un chef de Khuza'a vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui fait la liste de toutes les personnes qui ont été tuées et comment Quraysh a participé d'une manière discrète mais prouvée. Il lui prouve au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Quraysh était derrière. Et donc il lui donne tous les détails concernant et qui sont venus jusqu'à Bani Bakr et sont revenus par la suite. Ils ont donné des soldats et des... Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne la préparation. Mais avant, Abu Sufyan
est venu le voir.
Abu Sufyan, il a compris. Abu Sufyan n'était pas derrière cette... Abu Sufyan, c'est le chef de la Mecque. Il n'était pas derrière ce complot contre Banu. Il ne savait pas. Lui, il ne savait pas. Mais ça a été fait derrière lui. Il s'est dit, donc, je suis le responsable de la Mecque. Maintenant, Abu Sufyan, c'est le responsable. Abu Jahl a été tué, Umayya a été tué. Toutes les grandes têtes ont été tuées pendant la bataille de Badr. Abu Sufyan devient le patron. Et d'ailleurs, c'est Abu Sufyan qui a amené les gens à Uhud. C'était le chef. Et qui était le chef de l'armée à Al-Ahzab, Khanda? C'est qui? Abu Sufyan. Aussi, c'est lui. Et maintenant, puisque il s'est passé ça, il prend son cheval, il vient directement à Médine. Son objectif, c'est de renouveler. Parce que là, il sait ce qui s'est passé. Et il sait tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire. Vous avez trahi, vous avez annulé le pacte. C'est ça la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Sufyan, il prend son cheval, il vient directement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour renouer le pacte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons, une heure ou deux avant l'arrivée de Abu Sufyan. Il dit كأنكم بأبي سفيان قادم. C'est comme si je voyais Abu Sufyan. Abu Sufyan n'est pas encore là. Il dit c'est comme si je vois Abu Sufyan arriver de cette porte de la mosquée demander qu'on maintienne le pacte de l'Hudaybiyah. Abu Sufyan, pourquoi il est venu Abu Sufyan? Parce qu'il sait qu'ils ont trahi. Parce que s'il n'y avait rien à se reprocher, qu'il sait que Quraysh n'était pas pour quelque chose dans cette affaire-là, ben il serait resté chez lui. Mais il vient parce qu'il sait Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse pas passer ce genre de choses. Et ça, comme je vous l'ai dit, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse pas passer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a une décision, quand il voit un objectif, il fait tout pour le réaliser.
Je ne pensais pas que le prophète était au courant.
Le Abu Sufyan,
il ne savait pas que...
qui a été informé. Allahu a'lam, peut-être. Donc, Falaqiya, Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il fait? Sur le chemin, il y a Boudayl. Boudayl ibn Warqa, il était celui qui est venu détailler les choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était sur le chemin du retour. Et Abu Sufyan, sur le chemin vers Médine. Ils se sont croisés au milieu. À mi-chemin, ils se sont croisés. Abu Sufyan rencontre Boudayl. Boudayl, c'est le représentant de Khouza. Il a été agressé. Il le rencontre, il lui dit, t'es où ? J'étais en train de balader, je voulais pas lui dire que j'étais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Sufyan, c'était un homme très intelligent. Il l'a laissé partir, il est parti voir les restes des chameaux. Exactement, les excréments des chameaux. Et quand il a touché, il a trouvé des noix, des noyaux de dattes. Il a dit, Wallah, il était à Médine. Il a tout de suite rempli parce que Médine, c'est la ville des dattes. Et on ne donne pas aux chameaux, on ne leur donne pas des dattes en dehors de Médine. Il dit, Wallah, je suis certain qu'il était à Médine. Donc il a compris que ça y est, ça a été, le prophète est au courant et que c'est bon, il faut se préparer. Donc il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre chez sa fille. Sa fille, c'est qui? La fille de Abu Sufyan.
C'est la femme du prophète.
C'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa fille Abu Sufyan, c'était Ummu Habiba. Ummu Habiba, c'est qui? C'est la fille de Abu Sufyan, l'ennemi numéro un du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez, hein? Croyante. Allah fait sortir le vivant du mort. Lui, c'était l'ennemi numéro un, et sa fille était parmi les femmes les plus nobles, et la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il rentre, elle l'accueille, il veut s'asseoir, et c'était le tapis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait qu'un seul tapis. Subhanallah, regardez la modestie. Il n'y avait qu'un seul tapis. Lui, il voulait s'asseoir sur le tapis. Mais c'est le tapis sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie. C'est le tapis qui est propre. Elle lui dit, elle retire le tapis, elle lui dit, assieds-toi par terre, à son père. Il lui dit, mais pourquoi? Elle dit, c'est le tapis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu es encore un homme non croyant, et je ne veux pas que tu t'assoies sur le tapis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es najis, en quelque sorte, tu es impur. Dans le sens, hein, tu fais pas attention à tes habits, tu fais pas attention à comment tu... Hein, et donc, je ne te laisse pas t'asseoir sur le tapis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez le... Donc, Ummu Habib. Donc, Abu Sufyan sort, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui parler. Ya Muhammad. Il regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tourne la tête. Il ne veut pas le voir. Il ne lui a adressé aucune parole. Hein, c'est clair. Maintenant, c'est les actes et non pas les paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu lui parler. Donc, il vient voir Abu Bakr al-Siddiq. Pareil. Abu Bakr, il a agi exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune parole, aucune. Il était en train de tourner autour de la mosquée. Regarde Abu Bakr, il y a Abu Bakr. Ah, tu me connais? Aucune parole. Il vient voir Omar al-Khattab. Et Omar al-Khattab, il lui dit, hein, vous avez trahi. Et vous avez... Regarde ce que vous avez fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi. Par Allah, si je ne trouve que les fourmis avec moi, je vous combattrai avec les fourmis. Et Omar al-Khattab, il dit, si je trouve que les fourmis comme soldats, je vous attaquerai et je viendrai vous attaquer avec les fourmis. Illa al-dhar en arabe, c'est les fourmis. Parce que Abu Sufyan, il dit à Omar, ishfa'li, intercède pour moi. Parle à Mohammed pour qu'il change d'avis. Il dit, moi j'intercède pour toi. Si je trouve que les fourmis, je vous combattrai avec les fourmis. Et donc, il vient voir Ali. Radiallahu anhu. Ali lui dit donc, il voit que c'était Ali, il rentre chez lui, chez Ali. Il y avait Fatima, il y avait Al-Hassan ou Al-Hussein. Al-Hassan était un petit, il jouait. Donc, Al-Hassan est né, mais Al-Hussein pas encore. Il n'y avait que Al-Hassan à ce moment. Al-Hassan est plus grand que Al-Hussein. D'accord ? Il dit, « Ya Ali, innaka amassal qawmi bi rahiman. » Tu es le plus proche de ces gens-là à qui j'ai parlé, de moi. Il a un lien entre la tribu d'Abu Sufyan, la tribu de Ali et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ali lui dit wayhaka ya Abu Sufyan laqad azama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana amr ma nastati'u an nukallimahu fi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa décision. Ali dit à Abu Sufyan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa décision. Il a pris sa décision et on ne peut pas lui faire changer d'avis. Sa décision est prise. Bah, donc il voit Fatima. Il voit Fatima. Il dit à Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être ton fils peut intervenir. Hein, ton fils peut arranger entre les gens et ainsi faire cesser une guerre qui va être fatale pour notre peuple. Donc, Fatima dit « Wallahi ma yablughu ibni dhalik an yujira bayna an-nas. » Non, mon fils. Et subhanallah, par la suite, quand on regarde subhanallah, l'histoire, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Al-Hassan, le petit, c'est lui qui va conserver le sang de beaucoup de musulmans. Pourquoi? Parce qu'il s'est retiré. Il a laissé le khilafa à Muawiya. Sinon, il y a eu. Muawiyah avait décidé, radiallahu anhu, hein, c'est des points de vue différents. Hein. Muawiyah avait décidé de la guerre entre lui et Al-Hassan. D'accord ? Parce que Al-Hassan, c'était le calife. Al-Hassan, radiallahu anhu. C'était le fils de Ali. Le plus proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'homme le plus apte à prendre, à devenir calife. Et c'était la sagesse qu'Allah lui a donnée. La proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était lui le calife. Mais il a laissé sa place. Il s'est désisté et a laissé à Muawiyah. Muawiyah, c'est le fils de qui? Abu Sufyan, d'accord? Et donc, dans tous les cas, Al-Hassan va jouer un rôle pour arrêter la diffusion du sang entre les musulmans. C'était pas cette fois-ci, mais une autre fois. C'est parce que cette fois-ci, c'était pas entre musulmans, c'était entre les musulmans et les Mécois. Et on va voir par la suite qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas eu de guerre. Inch'Allah, on va le voir. Donc, Abu Sufyan, il savait quoi faire. Ali lui a dit donc, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ben, viens à la mosquée après la prière et tu annonces, Ayyuhannas. Dis, j'interviens pour arranger entre les gens et tu dis ce que tu as à dire. On continue notre pacte. Nous, on continue notre pacte. Il dit, dis ça et pars. Mais je ne crois pas que ça va servir à quelque chose. C'est ce qu'il a fait et il est parti. Et donc, quand il arrive à la Mecque, les gens lui disent, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la réponse de Mohammed? Est-ce qu'il a accepté? Il a dit, il n'a même pas voulu me recevoir. Et il leur a raconté l'histoire. Il lui a dit, il a aidé avec Ali. Ali, il a joué avec toi. Donc, il t'a donné un conseil qui n'est pas vraiment un conseil parce que ça ne sert à rien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, trois jours avant l'événement. Trois jours avant cet événement et tout ce qui se passe là. Trois jours avant, il dit à Aïcha, prépare-toi. On va faire un voyage. Et on va se préparer pour un voyage. Prépare-toi. Aïcha, c'est son épouse qui va l'accompagner. Trois jours avant, parce que le professeur Hassan m'a reçu la révélation qu'il y aura cette annulation de pacte. Trois jours avant, c'est pas l'arrivée de Abu Sufyan. Trois jours avant l'attaque, carrément. Aïcha dit, il m'a ordonné, avant même que ces événements arrivent, avant même que Banu Bakr attaque Khouza'a, avant que le prophète ait cette information, Allah l'a informé. Et trois jours avant, il dit à Aïcha de se préparer. أن تجهزه ولا يعلم أحد فدخل عليها أبو بكر أبو بكر يغنطر شي صافي عائشة إلا تخوف عائشة أنتخل بخبار الجهاز البخباراتي بخبار قالت والله ما أدري pourquoi tu prépares tout ça dit والله لا أدري je ne sais même pas pourquoi le prophète m'a demandé de préparer je suis en train de préparer قالت والله لا علم لي وفي صباح الثالث 3 jours après Amr ibn Salim le poème le poète qui est venu dire les événements au prophète sallallahu alayhi wa sallam وارتجز يا ربي اني ناشدا محمدا حلف ابيه وابينا الاتلدا le poème que je vous ai cité tout à l'heure donc c'est à ce moment-là que les gens ont appris que le pacte de l'Hudaybiyah a été annulé entre les musulmans et les mécois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, à ce moment-là, quand Abu Sufyan est parti, il a ordonné à tous les musulmans de se préparer. Tous. Et il a fait une invocation. Il a dit, Allahumma khudhi al-uyun anna. Ya Rab, cache notre démarche. Donc, que les gens ne sachent pas où on se dirige. Moi, les Mécois ont un peu deviné, n'est-ce pas? Mais ils n'avaient pas des détails. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que ça se sache, que son armée va sortir pour aller à la Mecque. Et donc, il a fait une invocation. Il dit, Ya Rabbi, khudhi al-uyuna wal-akhbara an Quraysh hatta nabghataha fi biladi. Ya Allah, fais en sorte que Quraysh n'ait pas l'information de notre départ. Le prophète a fait très vite, très vite. Abu Sufyan est parti, l'armée musulmane est sortie. Après, Abu Sufyan n'était même pas arrivé à la Mecque, que l'armée musulmane était déjà sortie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que les Mécois sachent. Pourquoi? Et ça c'est très important. Parce que l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le sang ne coule pas à la Mecque. Et que si les Mécois se préparent, imaginons que les Mécois ont l'information que Mohammed est sorti, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire appel à toutes les tribus, ils vont se préparer. Donc il y aura une armée. Et qu'est-ce qui se passe? Les musulmans et les Mécois, il y aura une grande guerre à la Mecque. Et la Mecque, c'est le Baytullah al-Haram. Al-Shahr al-Haram ou le Baytul al-Haram. Donc, la Mecque, c'est Baytullah al-Haram. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut éviter. Même si Allah dit dans le Coran que, et c'est un hadith aussi, qu'Allah lui a autorisé cette guerre. Normalement, la guerre à la Mecque est interdite pour tout le monde. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a autorisé une heure. Il a dit, Allah m'a autorisé la Mecque pour une heure. Une heure, c'est pas 60 minutes. Hein. Une heure, c'est à l'époque, c'est un temps. Allah m'a autorisé la main. Et Allah le dit dans le Coran, La uqsimu bihada al-baladi wa anta hillun. C'est quoi hillun? Halalun. Soit, il y a plusieurs explications. Soit halun, hal, c'est-à-dire tu habites cette cité. Et soit hillun dans le sens, oui, la guerre est permise pour toi pendant une heure, pendant cette. Donc Allah lui a donné l'autorisation. Mais malgré cette autorisation, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dit, j'ai une autorisation, allez, la guerre et on va... Non, il a tout fait pour que ça ne se sache pas. Donc, il se passe un événement, c'est que des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Hatib ibn Abi Balta'a. Ce Hatib là, il a assisté à Badr. Et je vous ai dit, les gens de Badr, c'est les meilleurs compagnons. Il a assisté à Bay'at al-Ridwan. à la Al-Hudaybiyah, les 1400 personnes. Mais on a dit que les 1400 personnes, Allah les a agréées. Ils faisaient partie des gens, des messagers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé vers, c'était un jeune, vers les rois.
Mais c'était un proche du prophète.
Oui, un proche. Un homme parmi les meilleurs compagnons. Qu'est-ce qu'il fait ?
Il écrit une lettre.
Ah, il écrit une lettre. Il écrit une lettre, il prend un papier de l'époque. Hein. Il écrit à Quraysh, je vous avertis, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Médine tel jour. Et si mes calculs sont bons, dans quelques jours, vous aurez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, préparez-vous. Une information. Il la cache, il vient, il y avait une femme qui partait à la Mecque, il lui donne de l'argent, il lui dit, cache cette lettre et je veux que tu l'amènes le plus rapidement possible à la Mecque.
Dans ses cheveux, elle a caché dans
ses cheveux. Donc elle a bien dissimulé pour que personne ne le sache, il l'a mis dans ses cheveux et elle est partie. Elle est partie vite. Et quand il l'a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'ange Gabriel. Tout de suite. Il dit, il lui informe de ce qui s'est passé. Il lui dit, la femme, elle est à tel endroit. À tel endroit. Et elle a la lettre dans ses cheveux. Il lui donne tous les détails. L'ange Gabriel donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle Ali et un autre compagnon. Donc, والمقداد علي والمقداد المقداد بن عمرو les deux mécois. Il leur dit, allez à tel endroit, vous allez trouver une ba'ina. Ba'ina, c'est une femme seule. Elle a un livre, elle a une lettre. Prenez cette lettre et ramenez-moi la femme. Ils font ce que le professeur Hassan m'a dit. Ils arrivent, ils trouvent la femme, comme le professeur Hassan m'a dit. Ils lui disent, arrête-toi, tu as une lettre. On veut la lettre et on veut te ramener vers le prophète. Alors elle dit, mais je n'ai pas de lettre. J'ai aucune lettre. Elle dit, ah, le prophète ne le ment pas. Soit tu nous donnes la lettre, soit on la prend par la force. Elle dit, tournez-vous. Ils sont tournés. Elle a dénoué ses cheveux. Elle a sorti la lettre et elle leur a donné. Et c'était marqué, Min Hatib ibn Abi Balta, un compagnon. Parmi les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi Shaytan, il peut, même si on a la foi, même si on est proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois les moments de faiblesse peuvent toucher n'importe qui.
Il y a une raison.
Il y a une raison, on va l'expliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il convoque Hatib. Imaginez la scène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, les compagnons les plus proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu faire un procès devant toute la mosquée, mais les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatib, Abu Bakr, Omar, Ali, les gens, ils s'adressent à Hatib. Ya Hatib, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? Tu sais très bien, mon objectif c'est qu'on arrive par surprise, qu'il n'y a pas de... Ya Hatib, il dit, ya Rasulallah, tu sais très bien que je suis croyant, que je n'ai jamais douté de toi, de ma foi, d'Allah, que tu es le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois en toi, je t'aime. Mais ya Rasulallah, vous avez tous des familles à la Mecque. Vous avez tous de la famille à la Mecque. Si jamais ça tourne mal et qu'on perd cette guerre-là, vous, vos familles seront protégées parce que vous avez des tribus, vous êtes connus, vous êtes... Moi, je n'ai pas de tribu. Et j'ai laissé ma femme et mes filles. Regardez les sacrifices que les compagnons ont fait. J'ai laissé ma femme et mes filles. Et j'ai que des filles à la Mecque. Imagine que ça tourne mal. Et que moi, je suis dans ton armée. Ils le savent. Ils étaient à Badr. Ils le connaissent très bien. Ces filles étaient déjà observées par les quoi. Ya Rasulallah, imagine que la terre, la guerre ne fonctionne pas et qu'on a perdu cette guerre-là, et ça peut arriver, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben vous, pour vous, Omar, tout le monde, vous avez de la famille, ils peuvent protéger vos... Mais moi, mes filles vont être captivées, ils vont être torturées, ils vont être tuées peut-être, parce que moi je suis leur père et je suis avec toi. Et je ne veux pas être ailleurs, je suis avec toi. Mais je me suis dit, je vais faire un petit service à Quraysh. Et je sais que ce service-là ne changera rien dans la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu le shaitan qui vient suggérer. Normalement, tu ne dois pas faire ça. Mais je me suis dit, si je leur rends un petit service, au moins par la suite, si jamais ça tourne mal, ben ils ont dit, ah, Hadib, on va épargner ses filles parce qu'il nous a quand même rendu. Vous avez compris la logique? Sa logique, c'était ça. Il a dit, Allah donnera la victoire à son prophète, mais si jamais ça tourne mal, au moins j'aurai fait un petit service qui protégera ma fille, mes filles. Parce que vous, vous avez de la famille qui protégeront vos enfants et vos proches. Moi, j'en ai personne. Ce n'est pas pour trouver une excuse à Hadr, mais c'est pour expliquer la situation. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, c'est vrai. Il accepte l'excuse de Hadr, subhanallah. Ça s'appelle dans une armée la haute trahison. Ça s'appelle la haute trahison. Et dans une armée, quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? On l'exécute tout de suite, secrètement. On ne parle pas, on l'exécute et c'est... Ben c'est ce que Omar a demandé. Ya Rasulallah, da'ni aghribu unaqa. Ya Rasulallah, c'est un munafiq, ya Rasulallah, c'est un munafiq. Et le prophète s'énerve. Il dit, la ya Allah, c'est pas un munafiq. Il a participé à Badr. Et Allah a dit, le prophète s'énerve, il est en train de parler à Omar. Et Allah a dit aux gens qui ont participé à Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai tout pardonné. Vous imaginez, hein? Les gens de Badr, Allah leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai tout pardonné. Les gens de Badr, 314 sont écrits jusqu'à aujourd'hui à midi. On les connaît un par un, un par un. On les connaît tous. 314 hommes, Allah leur a dit, faites ce que vous voulez. Et donc, Hadr, il a fait une erreur, même malgré la gravité de son erreur, reste un Badri. Il reste quelqu'un qui a participé à Sulh al-Hudaybiyah, qui a donné sa main sur la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de Taht al-Shajara. Il dit Ubayi'unaka Taht al-Shajara. Il fait partie des 1400 personnes. Donc Omar ne dit pas ça de Hadr. Et il accepte ses excuses. Vous voyez la leçon. Comment Shaitan peut induire même un grand compagnon dans l'erreur. Les compagnons ne sont pas infaillibles. Les compagnons sont faillibles, c'est des humains comme nous. Ils peuvent faire des erreurs. Et la preuve, elle est là. D'accord? Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, et les prophètes sont infaillibles. Les compagnons, non. Ils peuvent se tromper, ils peuvent faire des erreurs. Et Hatib ibn al-Balta'a, c'est un exemple. Et Allah a révélé une sourate. C'est laquelle? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا تلقون إليهم بالمودة vous leur envoyez al mawadda. C'est quoi al mawadda? C'est l'affection. Vous leur dites on est avec vous, on vous, d'accord, تلقون. Donc cette sourate elle ممتحنة. Sourate Al-Mumtahana, d'accord? Sourate Al-Mumtahana, lisez tafsir, vous allez tomber sur cette histoire de Hatib ibn Abi Balta.
Mais là où il dit Inna awladakum wa
awladakum fitna, exactement. Donc, voilà cette histoire. Qala Omar, da'ni ya Rasulallah. أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بلاتتي إنه شهد بدرا, إنه قد شهد بدرا, وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر. عمر quand il a entendu ça, ses yeux ont débordé de larmes. وقال الله ورسوله اعلم. C'est Allah et son prophète qui savent mieux. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé les musulmans. Et l'armée musulmane a pu partir discrètement. Et subhanallah, les Mécois se sont rendus compte que l'armée musulmane est là, que quand tu es à la Mecque, tu vois les feux de l'armée musulmane. Ils voyaient les feux allumés le soir. Le soir, quand on monte dans les montagnes, on voit les feux de l'armée musulmane. Donc, ils n'avaient aucun moyen de se préparer. Ils ont subi. Alhamdulillah, c'est une. Et si faites un moment, on va parler, Inch'Allah, la semaine prochaine. Lundi, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.